Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Les petits déjeuners présidentiels.
Avec Yves Calvi et François Fillon.
Et c'est donc vous à 8h18 qui prenez la parole pour interroger François Fillon. Le premier d'entre vous s'appelle Bruno. Il nous appelle du Grès dans le département de l'Orne où il est agriculteur. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Merci d'écouter notre radio. Je rappelle que vous êtes aussi lecteur de Ouest France et François Fillon vous écoute.
Monsieur Fillon, bonjour.
Bonjour.
J'étais également président de CDC jusqu'à la fameuse réforme territoriale en janvier, mais bon. Donc il y a beaucoup de thèmes que j'aimerais aborder avec vous, mais je me suis arrêté avec ces normes européennes et
voilà.
Françaises.
Un seul sera très bien.
D'accord. L'hyperadministration à la française qui arrive même à surenchérir au-delà des demandes européennes quand d'autres pays ne les appliquent même pas. L'évolution perpétuelle des normes qui fragilisent les projets à long terme. Pour exemple, chaque année, les différentes déclarations obligatoires pour les agriculteurs sont si compliquées que nous devons payer quelqu'un pour les faire à notre place. C'est un nouvel impôt, pour moi 2 600 € cette année. D'autres pays ont décidé de payer ces factures. Pouvez-vous l'envisager et d'une façon plus générale, accorder moins de place à l'administratif?
Alors d'abord, moi je propose une chose qui répond directement à la question de cet auditeur, c'est dès le début du quinquennat, par ordonnance, la suppression de toutes les normes françaises qui ont été rajoutées aux normes européennes concernant l'agriculture. Sauf s'il y a une raison particulière, spécifique, pour une norme qui soit purement française. Il y a une sur-transposition des normes européennes qui fait que près de la moitié des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, en réalité, ne sont pas dues à l'Europe, mais sont dues à l'administration française. Donc on les supprime. Ensuite, je voudrais qu'on vote, ce qui existe dans beaucoup de pays européens, une loi qui interdise la surtransposition des normes. Quand il y a une norme européenne, on applique la norme européenne et on l'applique dans son intégralité sans en rajouter. Enfin, là aussi, on retombe sur le cœur de mon projet qui est de débureaucratiser la société française. Il y a de plus en plus de gens qui administrent l'agriculture et il y a de moins en moins d'agriculteurs qui labourent leurs champs ou qui élèvent leurs animaux. Il faut donc réduire le poids de l'administration. C'est pour ça que je veux réduire le nombre des emplois publics. Il faut réduire le poids de l'administration sur les secteurs économiques.
Il y avait un point précis sur lequel Bruno vous interrogeait, qui était de dire certains pays payent pour leurs agriculteurs, c'est le cas de l'Allemagne ou des Pays-Bas.
Je préférais qu'on baisse la contrainte.
Donc là, votre réponse est non.
Voilà, je préférais qu'on baisse la contrainte plutôt qu'on paye pour compenser une contrainte inutile. On est dans un marché agricole commun, il est ouvert. À partir du moment où il est ouvert, les règles doivent être les mêmes en Allemagne et en France. Ou alors il faut refuser un marché agricole ouvert.
Et votre dialogue va continuer avec les agriculteurs puisque vous vous rendez tout à l'heure à Brest où vous rencontrerez notamment les responsables de la FNSEA. Merci beaucoup Bruno. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous nous appelez du département des Yvelines, vous êtes cadre. François Fillon vous écoute.
Absolument. Bonjour Monsieur Fillon, je vous remercie de prendre ma question. Je précise que je suis donc électeur plutôt à droite et que votre gouvernement a sauvé mon entreprise il y a 3 ans dans l'automobile. Ma question est la suivante.
Ça commence bien.
Dans un essai récent, 2 jeunes mettent en évidence l'importance de l'innovation pour une nouvelle France industrielle. Et on voit bien que des pays comme la Chine mettent en place des politiques volontaristes pour développer des secteurs nouveaux, entiers, de l'économie du futur. Donc ma question, qui est aussi une forme d'étonnement, pour quelle raison, alors que la part du secteur industriel a été divisée par 2, que les friches industrielles, comme vous le diagnostiquez très bien d'ailleurs, envahissent la France et sont gravissimes pour les régions. Pourquoi, dans ce cas, ne trouve-t-on pas dans votre programme un ministre du plan au cœur de vos actions, une planification volontariste, au sens gaullien qui a été abandonné d'ailleurs depuis Michel Rocard, de telle sorte que la France se prépare à mettre en œuvre des filières industrielles de qualité compétitive du futur avec une réelle politique volontariste. Et là, je ne veux pas seulement parler de l'environnement périphérique fiscal.
La réponse de François Fillon.
Je ne crois pas que dans la société d'aujourd'hui, dans le monde ouvert dans lequel nous vivons, avec les bouleversements technologiques extrêmement rapides que nous connaissons, les vieilles méthodes de planification soient encore pertinentes. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas avoir une réflexion stratégique sur l'innovation, sur la recherche. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que nous devrions avoir auprès du Premier ministre, auprès du gouvernement, un vrai conseil scientifique. J'avais d'ailleurs essayé d'en créer un, ou j'en avais créé un lorsque j'étais ministre de la Recherche dans les années 93-94. Je crois qu'il n'a vécu que 6 mois. Le gouvernement qui a succédé à celui dans lequel j'étais ministre de la Recherche a estimé que ce n'était pas utile d'avoir un conseil d'orientation scientifique. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale. Le président des États-Unis a à ses côtés un conseil scientifique et il fait des choix de soutien public à des activités, donc il considère que c'est des activités d'avenir. Par exemple, le président Obama a publié, peu de temps avant son départ, un rapport très intéressant sur comment les États-Unis vont devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle.
Oui.
Eh bien, il faut qu'on ait la même, les mêmes dispositifs et la même réflexion.
Mais pour prolonger la question de notre auditeur, c'est vrai que il y a des pays, l'auditeur parlait de la Chine, il y a la Corée, il y a Taïwan. Tous ces pays se sont développés avec un État qui a investi massivement directement dans l'économie, même aux États-Unis d'ailleurs. C'est dans les secteurs bien identifiés comme la défense ou les nouvelles technologies, mais des secteurs qui ruissellent dans l'ensemble de l'économie. En France, nous avons quand même moins cela qu'auparavant. Je sais bien qu'il y a eu des catastrophes de l'État stratège.
Question de François Langlais.
D'abord, vous citez des pays comme la Chine ou qui ne sont pas des pays très démocratiques. Donc
la
c'est
Corée,
plus facile.
La Corée du
oui,
Sud,
enfin,
Taïwan.
Même la Corée, on peut discuter.
C'est un pays qui vote.
Oui, c'est un pays
qui vote.
Il
a remis en cause sa présidente.
On va se fâcher avec toute l'Asie, faites attention. Parce que
Taïwan, c'est un pays qui vote également.
Mais enfin, le fonctionnement de ces démocraties est un peu différent.
Vous trouvez la Russie plus démocratique que la Corée du Sud?
Non, mais je pense que la Corée du Sud est moins démocratique que la France et que la plupart des pays européens. Non, c'est quand même un point important, parce que ça veut dire que en Chine, c'est vraiment l'État et les collectivités locales qui décident des investissements. Je crois que c'est pas applicable à un pays démocratique. La deuxième chose, c'est que la dimension de notre économie dans le concert des nations ne permet pas de faire des choix stratégiques sur tous les sujets. Et c'est pour ça que je voudrais que ce soit l'Union européenne qui le fasse. Enfin, ou que ce soit en tout cas les pays européens qui choisissent de s'engager, puisque moi je propose une rénovation radicale du projet européen à partir d'une initiative franco-allemande sur 4 ou 5 priorités. Et parmi ces priorités, je mets l'innovation et le numérique et le digital. Je pense que c'est le levier principal de la croissance des prochaines années. Et il faut que l'Europe s'organise avec d'abord des règles de marché, des règles de concurrence, pour faire en sorte que la domination américaine ne soit pas totale sur ce sujet-là, et des investissements. Quand j'étais Premier ministre, on a créé ce qu'on appelle les investissements d'avenir, qui correspondent un peu au souhait qui vient d'être exprimé par cet auditeur, c'est-à-dire des choix de soutien à des politiques de recherche ou à des politiques d'innovation qui correspondent à des priorités stratégiques.
On marque une nouvelle pause, si vous le voulez bien, François Fillon. Dans quelques instants, c'est Isabelle qui vous interroge sur l'éducation.
Les petits déjeuners de la présidentielle avec François Fillon à suivre sur Facebook Live et sur RTL.fr. Et puis, vous pouvez poser vos questions à François Fillon, 3210.
RTL Matin.
Les petits déjeuners présidentiels en partenariat avec Ouest France.
Yves Calvi, François Fillon.
8h28, c'est maintenant Isabelle François Fillon qui vous interroge. Elle nous appelle de la région de Tours. Bonjour Isabelle, François Fillon vous écoute.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur François Fillon.
Bonjour.
J'ai une question relative à l'enseignement. Quelle est, dans votre programme, la solution pour pallier les absences récurrentes des professeurs, notamment au collège ?
La mise en place de 2 jours de carence pour l'ensemble de la fonction publique. C'est-à-dire qui ? C'est déjà très important. S'il y avait des jours de... Nous avions mis en place 1 journée de carence lorsque nous étions... lorsque je dirigeais le gouvernement, ça avait fait baisser l'absentéisme dans le secteur public de façon radicale. Je propose aujourd'hui 2 jours de carence. Je rappelle que c'est 3 dans le secteur privé. Je pense que c'est une mesure très efficace.
Vous avez l'air surprise par la réponse de François Fillon, Isabelle.
Oui, parce qu'il y a des solutions simples. Les mercredis après-midi, même si souvent sont réservés à des activités extrascolaires, pourraient bénéficier justement pour rattraper des heures. Actuellement, il y a beaucoup de professeurs absents pour des raisons personnelles, certes, mais aussi liées à des formations avec les nouveaux programmes. Et le mercredi après-midi, on pourrait faire des heures de récupération, enfin de rattrapage, peut-être sur la base du volontariat, mais ça serait une piste.
C'est peut-être aussi le moment de rappeler ce qu'on appelle très exactement un jour de carence pour tous nos auditeurs.
Un jour de carence, ça veut dire que lorsqu'on est absent pour quelque raison que ce soit, on n'est pas payé. Voilà. Mais par contre, j'avais simplement pris en compte la question de l'absentéisme lié à des questions personnelles. Il y a l'absentéisme lié aux formations et à l'organisation du système éducatif. Bon, la meilleure solution, ça serait quand même de faire en sorte que les formations soient pas pendant les heures de cours. Et ça demande un peu d'autorité de la part des responsables des établissements. C'est d'ailleurs pour ça que je voudrais un système éducatif dans lequel les établissements soient plus autonomes et dans lequel les chefs d'établissement aient plus de pouvoir hiérarchique, d'autorité sur les équipes enseignantes.
Puisqu'on est dans la fonction publique, et en remerciant Isabelle, avant de donner la parole à Mickaël, je vous pose la question qui est le plus régulièrement posée sur Google. On s'est intéressé à ce que les internautes cherchent à propos de votre programme, et la question qui a été le plus posée concerne la fonction publique. Quels sont les 500 000 postes de fonctionnaires que François Fillon veut supprimer? C'est une interrogation qui était en hausse de 235% vous concernant dans les dernières 48 heures.
D'abord, pourquoi est-ce que je veux supprimer des postes de fonctionnaires? C'est parce que, je vous l'ai dit, on est en situation de faillite. Aujourd'hui, on emprunte sur les marchés internationaux pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites et pour rembourser les emprunts précédents.
Donc, ça, c'est le contexte. La question qui vous est posée porte sur lesquels.
Si on ne pose pas d'abord cette équation, les Français ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'on veut réduire la dépense publique.
Elle est posée.
La deuxième chose que je veux dire, c'est que 500 000 postes, c'est 8% des effectifs sur 5 ans. Donc ça veut dire entre 1,5% et 1,6% par an. Donc c'est tout à fait possible, c'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait raisonnable. Et ça suppose une transformation de notre système administratif. Voilà. Il y a des services qui doivent disparaître, il y a la numérisation, le digital qui doit conduire à moderniser l'organisation de l'administration. Il y a les collectivités locales qui ont embauché quasiment 1 million de personnes depuis 25 ans. Peut-être qu'il faut des ronds-points un peu moins sophistiqués et peut-être un peu plus d'infirmières dans les maisons de retraite. Voilà, il y a des choix à faire.
Pourquoi ne vous prononcez-vous pas directement sur les choix alors que vous avez travaillé sur ces questions depuis 3 ans?
Parce que ça demande un travail de transformation de l'ensemble de notre système administratif qui va prendre du temps, qui va faire l'objet d'un dialogue et d'une négociation. Mais quand j'entends dire que le programme de François Fillon, ça consiste à supprimer des policiers et des infirmières, je rappelle qu'il y a 150 000 policiers en France et qu'il y a 6 millions d'emplois publics, 5 600 000 emplois publics. Et que le nombre d'emplois publics en France est plus important qu'en Allemagne, alors que les Allemands ont une population qui est beaucoup plus importante que la nôtre.
Et moi, je ne comprends pas pourquoi, depuis plusieurs mois, on n'arrive pas à avoir une réponse claire et définitive à cette question.
Parce que c'est un travail de transformation qui va prendre du temps. Si je prends l'exemple de l'agriculteur qui posait une question tout à l'heure, il dit qu'il y a trop d'administration, au fond. Il va falloir regarder quels sont les postes qui doivent être supprimés, les services qui doivent être supprimés, comment on les remplace peut-être par l'utilisation du digital. On va avoir des banques qui vont fermer leurs agences les unes après les autres et qui vont passer par le smartphone pour la gestion des comptes. Et l'administration ne serait pas concernée? Bien sûr que si, l'administration est concernée. Si je prends l'exemple de la police, puisque cet exemple revient régulièrement, il y a 20% des policiers qui ne font que du travail administratif. On doit pouvoir alléger les procédures qu'utilisent les policiers. Par exemple, au lieu de taper les procès-verbaux sur des logiciels qui ne fonctionnent pas, ça pourrait être oral et enregistré. Et ça permettrait de gagner des centaines et des centaines de postes.
Mickaël va maintenant vous interroger. Il nous appelle de Paris.
Oui.
Bonjour Mickaël. François Fillon vous écoute.
Oui, bonjour. Monsieur Fillon, donc je suis sartois, être sur Paris. Je vais juste une question. Je suis restaurateur aujourd'hui à Paris. Je paye d'impôts sur ma société parce que je fais des bénéfices. Mais aujourd'hui, dans votre programme, j'ai bien détaillé, il n'y a aucun entreprise multinationale qui font leur chiffre d'affaires en France, qui paye d'impôts sur leurs bénéfices. Ou alors s'ils en payent, c'est dans des pays européens où ils ont la taxe la plus faible. Aujourd'hui, c'est une manne financière qu'on pourrait garder en France. Chaque entreprise qui fait des bénéfices en France paye leurs impôts en France, quel que soit son siège où il se situe. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une manne financière qui pourrait nous aider à récupérer cet argent, qui ne soit pas éparpillé ailleurs que la France. Donc c'est pas normal. Moi, je fais mon chiffre d'affaires en France, donc je veux qu'on paye les impôts en France.
Réponse de François Fillon. La question était très claire, Michael. Je me permets de vous
interrompre. S'agissant des entreprises françaises qui font leur chiffre d'affaires en France, elles paient des impôts comme toutes les entreprises en France. Ce qui se produit, c'est que beaucoup d'entreprises multinationales, en réalité, font leur chiffre d'affaires en dehors de France. Si on prend... Ça dépend.
C'est le cas d'Amazon, c'est le cas d'Apple.
Non, mais ça, c'est pas des entreprises françaises, pardon. Voilà, je parlais des entreprises françaises. Si on prend l'exemple de Total, qui est souvent cité, Total produit du pétrole dans le monde entier, c'est normal qu'il paie des impôts là où il produit ce pétrole. En revanche, il y a des entreprises internationales que vous venez de citer qui devraient payer des impôts en France sur leur activité et qui ne le font pas. Et c'est pour ça que je disais que je propose que parmi les priorités de l'Union européenne ou du projet de rénovation européen que je propose, il y ait la constitution d'un espace européen en matière numérique avec des règles de concurrence qui soient des règles de concurrence qui permettent de rééquilibrer les choses.
Et concernant Amazon, Google et toutes les grandes sociétés américaines qu'on vient de citer, on ne peut rien faire, on ne fait rien.
Si, c'est ce que je propose. Si vous
décidez... dites que ça se traite à l'échelle européenne,
ah
c'est
oui,
ça
oui, bien sûr. Parce que si vous ne le traitez pas à l'échelle européenne, compte tenu du marché que représente la France, qui est un marché qui est quand même modeste par rapport au marché mondial, ce sera difficile d'imposer des règles. Donc il faut les imposer, soit dans le cadre de l'Union européenne si on y arrive, soit, et c'est ma proposition, dans le cadre d'une initiative franco-allemande qui regroupe les États qui sont d'accord pour aller dans ce sens.
On va donner la parole maintenant à Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour, excusez-moi, je suis en train de rouler, je cherche à m'arrêter.
Bien sûr, ne prenez pas de risque. Avec, vous savez
courte.
Que c'est interdit de conduire en téléphonant. Hein.
Non, mais j'ai quand même le Bluetooth.
Ah bon.
Quand même. Voilà, ça y est, je m'arrête à une station.
Bravo.
Je suis dans mon contact. Voilà.
Nous vous écoutons, chère Sophie. Ah, on a perdu Sophie.
Non, vous m'entendez?
Ah bah oui, allez-y.
Bon, écoutez, ma question va être courte. Je suis donc infirmière à Cagnes-sur-Mer. Je suis républicaine. Je comptais de toute façon voter Monsieur Fillon. J'ai juste... aujourd'hui, je suis dans les instituts parce que la question que je me pose par rapport à toutes les affaires, et je ne voudrais pas parler de ça, c'est comment faire passer un programme qui est un programme de rigueur. Sachant tout ce qui se passe derrière, je pense que ça va être très difficile d'expliquer aux Français de faire des efforts financiers alors que nous savons ce qui s'est passé.
Et donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est ça le problème.
François Fillon vous répond.
Absolument. D'abord, premièrement,
vous
ne savez pas ce qui s'est passé, je le dis une nouvelle fois, mon innocence et celle de mon épouse sera démontrée par la justice, je n'ai aucun doute là-dessus. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est la démocratie, c'est le choix des Français. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de la Ve République, Georges Pompidou a été accusé de façon ignominieuse sur le comportement moral de son épouse. Valéry Giscard d'Estaing a été accusé sur les diamants de Bokassa. François Mitterrand a été accusé de collusion avec le régime de Vichy. Il a entretenu sa maîtresse au sein de la République et du Palais de l'Élysée pendant des années. Je vous rappelle Jacques Chirac dans les conditions dans lesquelles il a été élu. Et Nicolas Sarkozy qui a fait l'objet des accusations les plus graves et des mises en cause les plus graves.
Donc, vous mélangez là des accusations qui sont devenues des réalités et des accusations qui n'ont jamais été avérées, voire même qui ont été infirmées.
Je dis simplement que chaque président de la République a fait l'objet de ces attaques extrêmement violentes et que ça ne l'a pas empêché de gouverner le pays. C'est triste de penser que la démocratie fonctionne de cette manière, mais c'est la réalité. Voilà. Et la dernière chose que je veux dire...
Sophie, pour moi.
Et la dernière chose que je veux dire à Sophie, c'est que lorsque l'on parle de sacrifice, lorsque l'on parle du redressement de notre pays, on a d'un côté des extrémistes qui proposent des solutions folles, Et ensuite, on a Emmanuel Hollande, qui est un banquier d'affaires. Moi, je veux bien qu'un banquier d'affaires puisse demander des sacrifices au pays d'une manière qui soit plus réaliste que celle qui est la mienne, mais je demande à chacun de réfléchir.
Ce n'est pas d'une extraordinaire démagogie de lui jeter au visage son ancien statut de banquier.
Et pourquoi
Vous l'auriez dit au président Pompidou ?
Mais bien, non, je veux dire, le président Pompidou ne m'a pas attaqué, à ma connaissance. Monsieur Macron se permet de faire des remarques sur mon honnêteté et ma probité. Je lui dis simplement qu'il n'est pas le mieux placé pour le faire.
Voilà. Et dans un instant, François Fillon, nous allons découvrir la revue de presse avec Adeline François. Merci Sophie de nous avoir appelés. Merci à tous nos auditeurs d'avoir joué le jeu du direct avec nous et avec François Fillon.